Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werf. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, épisode 14. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Je suis un peu excité parce qu'on a un invité. On avait dit qu'on allait avoir des invités à notre retour. Et donc, il est là avec nous en studio, Constant Carbonel. Bonjour.
Bonjour.
Constant qui travaille entre autres pour Cinéculte.
Voilà, c'est ça.
Et tu fais quoi? Tu rédiges des critiques, des avis
Oui, je fais souvent des critiques, enfin quand j'ai le temps. Et sinon, non, je fais du relais d'infos surtout.
Tu relais d'infos, donc au quotidien, tu regardes un petit peu ce qui s'est passé, par exemple, voilà. Au BAFTA, etc.
Et
tu,
ça, je ne l'ai pas encore fait, malheureusement, mais bon.
D'accord. Bon, alors, le programme d'aujourd'hui, juste avant, on va vous rappeler qu'on est présent sur les réseaux sociaux, hein, facebook.com/cinecastbe, twitter@cinecastbe, et puis aussi sur SoundCloud, là où vous pouvez vous abonner et écouter l'ensemble de nos podcasts en streaming.
Et iTunes.
En demande. Oui, sur iTunes aussi, tout à fait. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Abonnez-vous et surtout, restez à la page, puisque chaque semaine, chaque mardi, on va essayer de tenir le rythme et de vous proposer un nouveau cinécast où il sera question, cette semaine-ci, de quatre films. Stronger, le nouveau film avec Jake Gyllenhaal dedans. Les aventures de Spirou et Fantasio. On ne sourit pas du tout autour de cette table. Aitonia et Jusqu'à la garde. Donc ça, c'est les quatre films qu'on va critiquer, entre parenthèses, cette semaine. Et entre chaque critique ou discussion, il y aura, comme d'habitude, une news. Et on démarre, comme chaque semaine, par le box-office. Alors, vous connaissez la chanson, c'est pas toujours le box-office de la veille, mais c'est le box-office du 7 au 11 février pour la Belgique, avec 5 films qui, pour la plupart d'entre eux, sont déjà présents au box-office les semaines précédentes, mais cette semaine-ci, on a eu un tout nouveau qui est arrivé, Fifty Shades Freed, qui était un film qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de ce film.
Non.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir par hasard?
Ouais, moi, je suis allé le voir quand même par curiosité, parce que j'avais vu les deux précédents. Mais disons que ça ne vaut rien, donc on peut clore le sujet.
Voilà.
Comme les deux premiers, quoi.
Il y a encore moins de sexe que dans les autres
Si, il y en a, mais c'est un peu risible même.
C'est un peu risible.
Voilà. Je t'avoue que j'ai envie de le voir aussi, hein, parce que j'ai vu les deux premiers que je trouve absolument mauvais, et j'ai une espèce de curiosité malsaine qui me donne très envie d'aller le voir.
Je crois même que c'est pire que le deuxième, donc...
Oui.
Pourquoi?
Je sais pas, je trouve ce truc tellement mal fait
que... une tension sexuelle qui est dingue entre eux. Hein.
Ben, justement, elle est proche de la température de l'Antarctique. Donc non, on ne peut pas dire que soit le feu.
Non.
Mais c'est ça qui est drôle, en fait. C'est que ce film essaie de faire des trucs qu'il ne réussit jamais et il veut plaire à trop de monde. Du coup, ça ne fonctionne pas et c'est ça qui est assez drôle.
En tout cas, ça fonctionne, hein, parce qu'en Belgique, enfin, ça ne fonctionne pas à l'écran, mais ça fonctionne en termes de chiffres, puisqu'en Belgique, en une semaine, il a dépassé les 2 millions de dollars avec donc les séances de minuit, entre guillemets, et les séances une fois que le film était sorti, puisque en un week-end, il a fait 1,5 million de dollars en Belgique.
Ah, quand même.
C'est assez impressionnant. Il devance donc du coup toute compétition, puisque le deuxième est Jumanji Welcome to the Jungle qui
encore
est là. Non, bah non, c'est 2 semaines en tout cas dans ce classement-ci.
Oui, techniquement.
Et là, il est dépassé les 2,5 millions de dollars en Belgique.
D'ailleurs, j'ai vu que Jumanji avait dépassé la barre des 900 millions de dollars de recettes au box-office mondial.
Dans le monde. Il est déjà dans le top 50 des plus gros, gros succès.
Dwayne The Rock Johnson n'a pas fini de nous surprendre.
Oui, d'ailleurs, ils ont prévu la suite.
Voilà.
Génial.
Oh là là.
Avec Rampage, ça va en faire des films avec où Rampage. Il va aller dans la jungle.
C'est ça.
J'ai vu que.
Il va à Hawaii en fait. Hein, il
j'ai
reste
vu des images, des images de Rampage. Il a exactement la même chemise que dans Jumanji.
Pour Rampage, qu'on rappelle vite le concept, c'est donc The Rock qui se bague des singes.
C'est adapté du jeu vidéo en fait.
Mais j'ai jamais joué.
Moi non plus.
Non, c'est ça. En fait, il a un animal de compagnie, un singe, et avec une erreur de labo, le singe devient énorme et donc tous les animaux deviennent énormes. Et voilà, belle bataille en perspective.
Ça promet.
Waouh.
Merci Warner.
C'est ça. Troisième film, c'est Maze Runner de Dead Cure qui a quand même fait un bon score. C'est un film pourtant qui n'a pas été très publicité. On n'a pas... Le marketing n'a pas été fou.
Ben, en fait, le truc, c'est que c'était déjà foutu à la base parce que le tournage avait été retardé suite à l'accident que Dylan... O'Brien avait eu sur le tournage. Donc le film aurait déjà dû sortir il y a un an, mais il a été repoussé du coup.
Ouais.
Et
la hype n'est
plus
trop.
Voilà, c'est ça. C'était plus dans la hype. Et voilà.
Ça fait quand même 1,5
million. C'est pareil pour Fifty Shades. Hein, au final, c'est déjà le troisième, même si c'est un an après le deuxième. les gens s'en foutent, quoi. Même s'il fait un score, malheureusement,
encore bon élevé. Bon score, oui, c'est ça.
Voilà, voilà, voilà.
Donc voilà.
Je suis content de ne pas avoir les tuches dans le top du box-office, quand même.
C'est vrai, mais peut-être qu'on n'a pas les résultats de TF1 distribution. Ce qui est fort probable.
Ah, peut-être.
C'est vrai, ah oui. Hein, quatrième film, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certains films sont là et on se dit, tiens, ils ont un score si faible. The Post, Pentagon Papers, troisième semaine d'exploitation avec 600 000 $ en Belgique.
Le chef-d'œuvre de Steven Spielberg.
Voilà, c'est deux fois moins, en perspective, hein, deux fois moins que Maze Runner, voilà, avec une semaine de plus. Et The Shape of Water, cinquième, ça fait mal aux dents quand on sait à quel point ce film est fantastique. Dernier du top 5 avec un total de 300 000 $ pour la Belgique en deux semaines d'exploitation.
Oui, mais en fait, il sort en France là dans les jours qui suivent, non ?
Il va sortir en France fin du mois, ouais.
Oui, c'est ça.
Mais oui, chez nous, c'est un score assez décevant quand même. Hein, parce que c'est... C'était le Lion d'or de Venise.
Ben, ouais, ouais.
Il a eu le Golden Globe. Là, hier soir, il a eu le BAFTA. Enfin, dimanche soir. Nous sommes lundi, donc on peut dire hier soir. Il a eu le BAFTA du meilleur réalisateur. Mm-hmm. Donc ouais, bon, décevant comme score. Ouais, allez voir ce film parce qu'il est très très bien.
Allez le voir.
Oui, c'est vrai.
De toute façon, peut-être qu'il va avoir un post-Oscar buzz si jamais il remporte l'Oscar. À mon avis, il va rester au cinéma un peu plus longtemps.
Oui, il y a moyen qu'il remporte.
Peut-être qu'il ressortira s'il est plus en salle d'ici.
Guillermo sûrement aura l'Oscar du meilleur réalisateur.
Je pense aussi, oui.
Porte chance.
Voilà.
Alors, on va tout de suite jumper dans le premier film de la semaine dont on va parler, c'est Stronger de David Gordon Green, qui est un réalisateur qui avait fait un peu de tout. Hein. Quand on regarde un peu sa filmo, le gars, oui, il a touché à Halloween, il a fait un film avec Nicolas Cage aussi, qui était un...
Halloween, c'est le film qui va arriver. Hein. C'est,
ah oui, c'est celui qui va faire.
C'est qui
arrivera,
le
ouais, là,
voilà.
Bah, Halloween prochain. Quoi.
Donc, le tournage parti. Est terminé d'ailleurs.
Ouais, déjà.
Il a fait Pineapple Express, hein, qui en français est Délire Express.
Ouais.
Your Highness, donc des films très très drames, hein, vraiment des films, des films poignants.
Et Joe, qui était
Nicolas Cage dans les bois, ouais, c'est ça.
C'était le premier des 14 retours de Nicolas Cage.
C'était pas
il
genre
un retour tous les 3-4 ans, Nicolas Cage.
C'était pas genre le mud de Nicolas Cage.
C'était un peu ça,
où
ouais.
Vous essayez de faire genre bon, même ouais, chose, et le même acteur en plus.
Oui, on peut dire ça comme ça, oui. On va dire que c'était le mud de Nicolas Cage.
Alors,
et Nicolas Cage aura Mandy cette année, qui apparemment est très bien. Je ne sais voilà pas quand on le verra.
Il essaie chaque année de revenir.
Ah, s'il fait un très bon film tous les 3-4 ans, c'est déjà bien. Hein,
ouais.
Parce que là, c'est vrai qu'il y a tous ces films qui sortent en DVD directement, on s'en fout un peu. Et d'ailleurs, personne ne sait qu'ils existent.
Mais justement, vous m'apprenez qu'ils existent. Donc...
voilà. Les films chrétiens, là, avec l'avion et tout. Là. Soit.
Hein, non, je ne sais pas. Il y a Mohamed Dad maintenant, qui a un petit buzz sur Internet. Apparemment, le film est mauvais, mais. Donc, soit.
Nicolas, voilà, s'il nous entend. Donc. Triste. Le film Stronger de David Gordon Green avec Jake Gyllenhaal et Tatiana Maslany, c'est bien ça comme on dit. C'est un film en fait qui se base sur les incidents du marathon de Boston en 2013, puisque c'est
les incidents,
les oui, incidents,
les attentats,
les deux explosions qui ont eu lieu, à la ligne d'arrivée, et ça se concentre plus particulièrement sur un individu, Jeff Bowman, qui a perdu ses deux jambes lors de ce drame. Et qui du coup bah, voilà, doit composer avec, hein, comme on dit, donc comment est-ce qu'il va vivre sa relation amoureuse, sa relation familiale, etc., avec et sa relation aussi personnelle avec lui-même, avec ce nouveau, comment on dit ça, handicap, voilà, aussi simple que ça.
Ouais, on peut dire ça comme ça, oui.
On a tous les trois vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, oui, Constant ?
Oui, en fait, moi, j'ai surtout aimé la performance de Jake Gyllenhaal, parce que, voilà, on peut voir qu'il s'est mis corps et âme dans cette performance. Sinon, après, le film en lui-même, j'ai pas apprécié plus que ça, parce que c'est finalement un biopic sur un drame assez classique, et je trouve que le film a du mal à trouver finalement son rythme, et donc ça devient assez linéaire, voilà.
D'accord. Et toi, Thibaut ?
Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est que c'était un complément à Patriot's Day de Peter Berg, qui était sorti l'an dernier, qui était qui là s'intéressait à la traque des... Bah, d'ailleurs, le film en français s'appelait Traque à Boston, qui s'intéressait à la traque des deux terroristes, mmh, et pas du tout aux victimes, etc. Donc ici, on est vraiment que là-dessus, c'est ça que je trouve bien. Donc c'est vraiment le parcours de Jeff, et ce qui est intéressant dans son histoire, en fait, c'est qu'il était venu encourager son ex. Ils avaient déjà rompu plusieurs fois, c'était rabiboché à chaque fois, et là, ils n'étaient plus ensemble. Et ce qu'elle lui reprochait, principalement, c'est qu'il était pas souvent là, quoi. Il lui faisait faux bond, des rendez-vous, etc. Et là, il se fait que, bah, il était là. Il était là à l'attendre à l'arrivée du marathon. Et il en a été une des victimes. Et c'est un des éléments que je trouve très intéressant dans le film, c'est que ils ne sont plus ensemble, mais elle, elle ne peut pas rester insensible au fait que son homme, entre guillemets, même si ce n'était plus le cas, était blessé dans les attentats. Et donc, voilà, ils ne savent pas trop sur quel pied danser, ils ne sont plus ensemble, mais ils vont s'entraider, enfin, s'entraider, surtout elle par rapport à lui, elle va être là donc pour lui. Et vraiment, je trouve que ça, c'est un des aspects les plus intéressants du film. Alors après, effectivement, c'est assez classique, comme Constant le disait, mais ce qui est bien aussi, c'est que ça reste très bien traité, et c'est pas trop larmoyant. On touche la corde sensible, mais il y a eu bien pire que ça.
Oui, c'est vrai.
Il y a un peu le côté patriotique quand même.
Être plus ému et pleurer, justement. Mais bon, là, j'ai
il y a quand même des séquences très fortes, ouais, en émotion.
Je vous avoue que donc, j'ai vu le film. On a eu un lien pour voir le film. Donc, j'ai regardé depuis chez moi. Et c'est vrai que c'était assez... Enfin, franchement, oui, j'ai eu une petite larme à l'œil quand même. Faut pas le cacher.
Bah, plus tu sais très bien que je suis un grand...
T'es une pleureuse, oui.
Une Madeleine. Non.
Bah oui, mais bah,
ça m'étonne, parce que je trouve qu'il y a vraiment des séquences très très fortes.
Oui, il y a des séquences très très
fortes. Celle où il rencontre le gars qui l'a sauvé, je la trouvais vraiment très poignante.
Oui. Et puis les passages avec sa copine, tout simplement, je pense que c'est aussi ça la relation du film qui fonctionne très bien, c'est l'échange entre les deux. Bon, Jake est à fond dans son rôle, transformé comme d'habitude, hein, dans tous les films qu'il fait récemment, à chaque fois il met une performance quand même qui est placée très très haut. Mais ce qui m'a vraiment intéressé pour moi, c'était en gros, c'est le message du film, hein, c'est l'évolution psychologique du personnage, qui est un peu un jeune classique, un peu paumé dans la vie, comme beaucoup de jeunes, qui, de par cette expérience, en fait, va devoir obligatoirement prendre des décisions et avancer et s'accepter comme il est, et puis passer outre ces expériences qu'il a vécues et vraiment devenir un homme, entre guillemets. Et ça, c'est ça qui m'a touché dans cette histoire-là. Je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment... Allez, c'est intéressant d'aborder ça, qui est une histoire assez universelle qu'on pourrait mettre dans n'importe quel film, hein, un jeune qui devient un adulte, mais mettre ça dans un contexte d'attentat terroriste, événement post-traumatique, patati patata. Donc, c'est vraiment cet axe-là que j'ai beaucoup apprécié. C'est pour ça que ça m'avait touché. Maintenant, patriotisme américain, ça, comme toujours comme dans ces films-là, on est obligé. Ouais. Hein. Heureusement, c'est pas réalisé par Clint Eastwood. On n'a pas eu droit à l'hélicoptère et le drapeau. Et
aux gens qui crient USA!
Il y en a.
USA!
On y est presque. Quand même, il y a quand même une
on
scène
y est presque, ouais.
Où il va sur un ice skating. Là, tu vois,
ouais, ouais, sur le
glace,
le hockey sur
le
glace.
Avec le drapeau. Hein, et puis il y a la scène où il fait du baseball. Donc il y a deux scènes de stade où tout le stade l'applaudit. Donc c'est quand même des scènes, t'es là, bon, allez, les gars, on a compris. Mais,
ouais. Mais, à part mais ils n'ont pas forcé ça comme dans Patriot's Day, justement, qui là c'était le summum du patriotisme.
Ah oui, oui, oui. Mark Wahlberg déjà.
Oui, voilà.
Mais oui, et puis par exemple, ce qui était bien aussi, c'était la relation avec sa mère, donc qui est alcoolique, qui ne s'occupe pas du tout de lui et qui lui devait toujours s'occuper d'elle et qui maintenant il ne peut plus. Et donc...
Ah, mais la famille, elle est complètement à l'ouest en fait. Elle réagit de manière, je trouve, assez irrationnelle. En même temps, je comprends qu'ils veulent.
Faire
en sorte, voilà, c'est ça. On essaie d'être les plus naturels et comme d'hab, rien n'a changé, tu vois. Mais en même temps, c'est pas possible, quoi. Sa mère, elle fait venir Oprah Winfrey et elle lui prévoit 15 000 bazars.
Et lui, il veut pas, ouais.
Alors qu'il est clairement pas en état de le faire et ça se voit. Si il faisait un peu plus attention à Jeff, ben, clairement, il verrait que non, il peut pas faire tout ce qu'ils veulent faire de lui, quoi. Ça, il devient un peu une bête de foire, donc. Voilà, moi je trouve qu'il y a des choses vraiment assez intéressantes qui sont traitées avec beaucoup de justesse. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans les grands films du genre, hein, mais voilà, il fait ce qu'il doit faire, il le fait bien. Mm-hmm. Et Jake Gyllenhaal, il est très très bien, quoi. Je suis surpris qu'il ait pas une nomination aux Oscars.
Hein, justement, quand le film est sorti aux États-Unis au mois d'août. Il était grand favori
en août.
Tu sors pas un film au mois d'août pour les Oscars.
Je sais, mais il était grand favori. On en parlait déjà.
Ah, bien sûr.
Finalement, il est un peu passé aux oubliettes.
Bon, en général, quand tu sors un film en août, c'est que tu sais qu'il n'a pas le potentiel de gagner un Oscar, un peu comme Gold avec Matthew McConaughey, voilà. Qui est sorti à cette époque-là. Ouais. qui est un film où tu sens qu'ils auraient voulu mettre la barre, mais en fait non.
c'est comme quoi ces cérémonies se tiennent uniquement à des calendriers. Hein, c'est...
Voilà, ouais.
Mais bon, là je trouve que pour moi, un des gros défauts du film, outre le fait que voilà, c'est peut-être un petit peu conventionnel en termes de structure, c'est qu'il y a plein de choses à raconter avec cette histoire-là. On parlait de sa famille, on parle de sa copine, on parle de son handicap, on parle de ses problèmes aller psychologiques, on parle de même sa surmédiatisation. Il y a plein de thèmes, quoi. Donc c'est difficile de dire on va faire un film, on va se concentrer sur tout ça et on va tout mettre dedans. Peut-être qu'ils auraient dû se concentrer sur 2-3 éléments et dire ok, on va se concentrer à fond là-dessus.
Ouais.
Et on oublie certaines parties du film, quoi. Ils ont voulu tout mettre et c'est peut-être ça le problème de Stronger.
Sans doute, sans doute.
Une note, les amis. Ah oui, parce qu'on doit donner une note.
Ah oui, bah ah, oui.
Oui. Mais on va faire une petite moyenne, hein, c'est ça. Donc moi je 3. 3 étoiles sur 5. J'ai bien aimé, quand même.
Constant ?
J'allais mettre 2,5, la ouais, moyenne.
Tu vas mettre 2, toi.
Ouais, ce serait un 2, ouais.
Ah oui, carrément, en fait.
Que va-t-on faire ? Que va-t-on faire ? Bah, je peux pas mettre 2,5.
Je trouve ça bien, hein. Non, mais je trouve ça bien.
Non,
mais
moi, il mérite c'est... la moyenne, 2,5, oui.
Oui, bah, 2, c'est pas. Bien. En étoile, 2, c'est bien. C'est
alors 2, alors ce sera 2.
C'est
2.
C'est pas... Voilà, la loi du plus fort, ici.
Voilà.
Ok, 2 étoiles pour Stronger. On passe à la... Première nouvelle, enfin suite au box-office, la deuxième nouvelle de l'émission où on va parcourir un petit peu les BAFTA qui ont eu lieu, donc du coup, comme tu le disais, ce dimanche, enfin dimanche soir.
Qui sont donc les Oscars anglais.
Exactement, c'est un peu l'équivalent où il y a bah, à peu près les Usual Suspects hein, qui se sont retrouvés au palmarès.
Oui, en général, ce sont les mêmes films qui sont aux Golden Globes, aux Oscars, aux BAFTA.
Aux Oscars, et des fois, il y a des bonnes surprises ou alors un film qui. Ou une récompense.
Ou parfois, il y a un film qui gagne mais qui ne gagne pas en fait.
Voilà.
Par exemple.
Oh là là. J'espère que cette année, ils vont nous faire un truc pareil. Bon, alors, le film qui a vraiment remporté un maximum de récompenses, c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Yes !
Oui, ton film préféré. Meilleur film britannique, meilleure actrice, meilleur acteur dans le second rôle pour Sam Rockwell, meilleur scénario, meilleur film, enfin voilà quoi. Donc,
Oui, les Britanniques, ils ont plusieurs meilleurs films. Ils ont meilleurs films anglais, pour bien dire, c'est chez nous. Hein. Mais il y a aussi meilleurs films quand c'est les Américains et qui sont obligés de... Hein. Et là, voilà. Il a les deux.
Il a les deux,
c'est
oui.
Bien.
Et connaissant les Anglais, ils vont tout mettre sur le DVD, tu vois, quand il va sortir. Et donc, on verra plus la pochette, sinon il y aura des récompenses.
Oui, enfin, ouais. Les Français sont aussi forts pour ça, hein, sous
c'est
les vrai. Posters. Oui.
Bah, je crois que c'est un peu. C'est une tendance qui se fait un peu partout, de plus en plus. Sur les posters, tu vois plus le poster, en fait. Tu vois que les taglines de la presse, chef-d'œuvre, un film poignant, machin.
Mais non, dans les bandes annonces.
Il y a le poster de Aitonia, dont on parlera après. Le poster français, c'est que ça.
Tu vois rien.
Honnêtement, sur la première moitié, la moitié du dessus du poster, c'est que des taglines. Et ensuite, en bas, tu vois, il y a Margot Robbie et bah, Real, machin et tout, mais c'est tout. Quoi.
Et Stronger, c'était pareil, en fait.
Oui, c'est vrai que Stronger, c'était pareil.
Oui, Stronger, j'ai l'impression qu'en fait, c'était tous des taglines du style l'adversité en fait, nous rend plus fort. Tu vois, quelque
chose de marrant. Je sais pas comment ça s'appelle le film, finalement.
Par contre, c'est très drôle, je viens d'y penser, qu'un poster où ils font le profil d'un acteur et ils mettent que des taglines, en fait, tu vois, les designs où c'est des textes en fait, et quand tu regardes de loin, ça fait genre le profil d'Obama ou le profil de Trump.
Ouais.
Et ben ils font ça, mais que avec des critiques. Ce serait...
Et ils oublient de mettre le titre du film.
Ce serait, très réfléchi. Nous sommes fiers de nous. En fait, c'est ça le titre du film. Voilà. Donc, alors, deuxième film qui a reçu deux récompenses, et pas des moindres quand même, puisque meilleure musique et meilleur réalisateur pour Guillermo del Toro, c'est La forme de l'eau. On en parlait il y a quelques instants. Meilleur acteur.
Film qu'il faut absolument voir. On ne le dit pas assez.
Oui, je le souligne, je suis d'accord.
On était en vacances / malade à ce moment-là, on n'a pas fait d'émission où on a parlé du film.
C'est vrai.
Donc voilà, on ne le dit pas assez. Allez voir ce film.
C'est une ode au cinéma.
Exactement.
Une ode à la poésie.
Un conte fantastique, absolument fantastique.
Ma copine ne veut pas le voir. Je dis à chaque fois, viens, on va voir.
Elle a tort.
J'ai pas envie de voir un truc avec un monstre. Je suis dit, non, pas du tout, c'est compliqué. Et donc j'ai essayé de lui expliquer le film sans lui expliquer le film, ce qui était assez compliqué.
Écoute, tu peux lui dire que donc, je lui dis, c'est le film de Channing Tatum, mais en fait, c'est ça.
Voilà. Ah oui. Non, mais ça, je
viens, on va voir un film de Channing Tatum, mais en fait, deux places pour La forme de l'eau, s'il vous plaît.
Magic Mike 3.
Ouais.
Make it happen. Bon, alors le troisième, c'est Les Heures Sombres. Enfin, Les Heures Sombres, c'est Gary Oldman qui a remporté le BAFTA du meilleur acteur dans Les Heures Sombres, meilleur maquillage, bon, c'est...
Oui, ouais, forcément.
Oui, forcément. Sinon, il aurait été à Kevin Spacey, mais bon.
J'ai lu récemment qu'en fait, il avait évité de dormir et de manger pendant le tournage pour justement que ça reste en place.
Ah, qu'est-ce qu'on va pas t'inventer comme connerie.
Voilà.
Ouais. Tout à fait.
Mais écoute, oui.
Et justement, ben voilà, on en parle un peu après. Il y a meilleure actrice dans un second rôle. Second rôle, Aitonia.
Oui, second rôle. Oui.
D'accord, j'ai pas lu le film, donc je ne sais pas. Ah oui, non, c'est pour Alison Janney. Mais oui, je me suis dit pendant un instant, tiens, Margot Robbie a gagné quelque chose.
Non, on n'a rien eu.
N'a rien eu, Margot Robbie. Meilleur scénario adapté pour Call Me By Your Name. Mm-hmm. Dans ce cas-ci. Meilleure photographie. Ah,
enfin.
Ah,
ce film a eu des prix.
Roger Deakins. Et meilleur effet spéciaux pour Blade Runner 2049.
Entièrement mérité.
Ah oui, là.
Mais moi, j'étais content aussi.
C'était assez mérité. Effets spéciaux, là, c'est très, très. Ils auraient peut-être pu penser à Dunkerque aussi, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Meilleur montage pour Baby Driver.
C'est complètement mérité. Incontestable. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait l'avoir.
Les meilleurs costumes pour Phantom Thread.
Mérité aussi.
Bien sûr. Et meilleur son pour Dunkerque. Oui, voilà. Alors là, oui, bon, la production du son sur les films de Christopher Nolan, c'est souvent très très bon. Et là, ça va être dans Dunkerque, c'est.
C'est une expérience sonore.
C'était donc, soit lui, soit Baby Driver. Hein. De toute façon, il n'y avait pas photo.
Ouais. Meilleur bande son pour Baby Driver, ils auraient dû faire. Mais il n'y a pas ça, je suppose, au BAFTA.
Non.
Enfin, si.
Pas bande son.
C'est musique composée, quoi. C'est ça, oui. Okay. Meilleur film d'animation, Coco. Est-ce que c'est mérité?
Ah oui, oui.
Ah oui, oui, il n'y a rien d'autre qui pour vous est au top du palmarès en animation cette année? Emoji Movie?
Non.
Non, c'est un peu le contraire. Je calme
tout de suite, Guillaume. Je pense que tu es viré que je vais faire cette émission tout seul.
Oh, mais dis donc. Meilleur film étranger, Mademoiselle.
Oui, de Park Chan-wook qui est sorti il y a plus d'un an ici. Visiblement, il est sorti en 2017 en Angleterre. Donc voilà, il est nommé dans les meilleurs films étrangers. Et il l'a remporté. Ce qui ne me choque absolument pas plus que ça.
Meilleur docu, c'est I'm Not Your Negro, qui a le même poster que Get Out, pratiquement.
Quasiment, oui.
Oui. Et puis le petit prix pour récompenser quelqu'un, parce qu'on ne l'a pas récompensé sur les autres prix, c'est le prix récompense de carrière à Ridley Scott.
Ouais.
Parce que cette année, on aurait pu le.
Mais il a quand même eu deux films, dont un très bien. Oui, et un très nul.
Alien Covenant, exactement.
Non, c'est l'inverse.
Je sais. Ah oui.
Oui.
Tu te calmes. Le film dont on ne parle plus. Personnellement, on n'entend plus beaucoup parler de ce film, hein, All the Money in the World.
Bah, il est sorti fin décembre, on est déjà mi-février. Ouais,
donc, j'aurais bien aimé d'ailleurs que Christopher Plummer remporte la, le BAFTA. Ouais.
Ah, le BAFTA, oui, carrément. Il était bah oui, mais Sam Rockwell, il est
incontestable
dans Three Billboards.
Mais il y a aussi le E Rising Stars aussi pour l'acteur de Get Out, non?
Oui, oui, Daniel Kaluuya a eu.
J'ai bien dit, j'espère, c'est oui, le E Rising Star, mais je suis pas sûr.
Quelque chose comme ça, oui. Oui.
Mais le E, c'est... donc tu fais du placement de produit, c'est très bien. C'est un.
Ah oui, je me doute.
C'est genre Moby Star, quoi.
Voilà.
Qui n'existe plus. Ok. On passe au deuxième film.
On passe à la suite.
Est-ce qu'on plombe un peu le moral là? Ou est-ce qu'au contraire, on a envie d'aller au cinéma, de vivre une expérience de cinéma qui nous transcende, qui nous donne envie de prendre une caméra, de devenir réalisateur, d'aller dans le jardin avec des amis, de changer notre vie avec les aventures de Spirou et Fantasio?
Non.
Non. Oh mon Dieu. Oh là là.
Mais c'est vrai que en fait, ça aurait pu être pire.
Ça aurait été pire. Ok, bah tu démarres bien.
Non,
vas-y, go,
mais non,
go,
parce que après, je suis, je me lasse vraiment de toutes ces adaptations de BD.
Gaston
de...
qui arrive dans quelques semaines.
Oui, enfin, ouais, voilà. mais finalement, j'ai passé un bon moment. Bien sûr, c'est mal joué, c'est cliché, ça ne suit pas vraiment la trame de Spirou. Et finalement, voilà. Mais dans les adaptations françaises, récemment, on a vu bien pire.
Oui, oui, il y a toujours pire, c'est vrai, il y a toujours pire.
Ouais, non, mais moi, ce qui m'a posé problème avec le film, en fait, c'est. C'est con parce que c'est le cas, mais c'est tellement trans. Ça se voit tellement que ça saute aux yeux. C'est un film de commande pure et dure, où ils ont tapé un scénario en deux semaines parce qu'ils n'avaient pas trois semaines pour payer les gens. Et concrètement, il y a 25 minutes du film qui se passe dans un hôtel, j'ai chronométré, 25 minutes du film qui se passe dans un hôtel, 15 minutes du film dans un aéroport, et puis tout le reste c'est dans un petit désert, je sais pas si c'est un vrai désert ou un fond vert, mais à mon avis c'est à Ouarzazate quelque part.
Je tourne l'air
maintenant. Et donc concrètement, ben voilà, c'est tout le film quoi. Il y a trois endroits. C'est Spirou et Fantasio, censé nous faire rêver, censé nous amener un petit peu, tu sais, des trucs bizarres avec des inventions dans la mer et tout. Enfin, c'est censé faire rêver les gosses, et au contraire de ça, on a juste des gens qui, voilà, ils sont payés pour pause clope et faire vite un truc pendant deux mois, Ouarzazate, et puis. Et on va le distribuer, et Ramzy est tellement pas content du truc qu'il met avec la participation d'eux. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Tu sens vraiment le produit pur de cinéma français TF1 Productions où on se dit, bon, les Tuches 3 sont sortis, il faut qu'un truc sorte un mois plus tard pour continuer le rendement. Il n'y a aucun amour du matériel de base dans ce film. contrairement à Spielberg qui faisait Tintin ou quoi, qui, allez, on sentait qu'il y avait une passion pour le projet, première scène à Bruxelles, etc., des trucs comme ça. Là, tu... Voilà, c'est un pickpocket, Spirou, déjà de 1, what.
D'où Spirou est un putain de pickpocket. Spirou n'a jamais été un pickpocket.
C'est revisité.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Des trucs comme ça, quoi. Donc, t'es là, ok, voilà. Et pff, voilà, c'est plat, c'est chiant. Je me suis dit, imaginons que je vais voir ça avec un cousin, et voilà, tu sais, j'amène mon petit cousin. Je peux comprendre que les enfants de moins de 12 ans aiment bien, parce que c'est coloré.
Moins de 8.
Il se passe des choses, il y a beaucoup de musique, tu vois, beaucoup de musique un peu entraînante. Il y a des gags, il n'y a pas de gags. Et par contre, l'adulte.
Si, il y a Fantasio qui boit de l'eau dans le caca d'un chameau.
Oui, mais spoiler là.
Mais l'adulte, alors, l'adulte ne peut que se faire chier par rapport à ce film-là. Oui. Donc moi je me dis, c'est même pas un film que tu as envie d'aller voir avec un gosse. Quoi, tu dis.
Non.
C'est vraiment le film.
Mais j'ai envie de dire, Christian Clavier.
Ah oui.
Je sais qu'il est omniprésent pour l'instant dans les comédies françaises. Et bizarrement, dans ce film, il ne joue pas énormément. Mais voilà, j'étais surpris de le voir et finalement, il ne m'a pas dérangé plus que ça.
C'est un des trucs les moins pires du film.
Oui,
c'est un champignac qui est correct.
Exactement.
Et je trouve qu'Alex Lutz est un Fantasio plus ou moins correct.
Oui, je me disais aussi.
Je suis clairement pas convaincu. Totalement convaincu, mais il a un petit truc de Fantasio. Alors que Spirou, Thomas Oliveres, il a rien de Spirou.
Non, il est nul.
À aucun moment, je me suis dit que j'avais Spirou devant moi, en fait. Autant Fantasio, parfois, un petit peu, parce que Fantasio a une façon de se comporter, il a une façon de parler aussi. Et Alex Lutz, ça passait encore un petit peu. Et des fois, vraiment, je me dis, ah, oui, il y a quelque chose de Fantasio. Spirou, absolument pas, quoi. Pour moi, Alexandre Coffre, le réalisateur, il est complètement à côté de la plaque, là. L'histoire est inintéressante. Il se passe rien, vraiment rien. Alors, l'esprit général de la BD est là, mais c'est absolument pas suffisant, quoi. Les mecs, ils ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec n'importe quel BD, bouquin ou autre. Mais non, il faut arrêter de penser que parce qu'il y a un bouquin qui existe ou une BD ou je ne sais pas quoi, ça peut devenir un film, et encore moins que ça peut devenir un bon film, parce que c'est absolument pas le cas. Et Gaston Lagaffe, j'ai pas encore vu le film, mais je peux déjà te dire avec certitude, sans aucun doute, que ça sera raté.
Bah, c'est avec le gars des Tuches, hein.
C'est par
ceux qui ont fait les profs, quoi.
C'est par PEF
qui a fait les profs,
pas les Tuches.
Ouais, mais le gars qui joue Gaston, il est dans les Tuches.
Ah, il est dans les Tuches.
Ouais, il joue le fils le plus intelligent de la famille.
Ah, chouette. Ah, oh, oui, mon Dieu.
Oui. Ouais, c'est lui.
Non, mais non, ici, c'est encore un ratage, quoi. Et visiblement, Franquin est inadaptable.
Enfin, tu disais Alex Lutz, oui, mais bon, moi, quand je le vois, j'arrête pas de penser à Catherine et Liliane.
Oui, bien sûr, bah, évidemment, voilà. Tu penses à Catherine.
Non, moi, je pense à Heinrich von Zimmel. Non, mais c'est comme ça qu'il s'appelle dans SS117, Rio ne répond plus.
Ah oui, c'est vrai.
C'est lui qui joue le hippie, là. Oui, le groupe, oui, groupe hippie. Oui. Ouais, c'est lui.
Ouais.
Donc voilà, moi je pensais à lui tout le temps. chacun
ses références.
J'ai trop regardé Catherine et Liliane.
Non, mais c'est vrai que quand je vois Alex Lutz, je vois aussi Catherine et Liliane forcément. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même des petits trucs de Fantasio. Et c'est un des rares trucs à sauver du film. Quoi. Spip, bon bah c'est Spip, hein, il a quelques trucs de Spip, mais bon, c'est jamais qu'un écureuil en image de synthèse.
C'est ça quoi, voilà. Touche pas à mon Spip, il y avait quand même cette phrase qui pour moi est la meilleure phrase du film.
C'est vrai. C'est Cotine, c'est un personnage que j'aime bien dans la BD. J'aime beaucoup Géraldine Nakache aussi, mais les deux, pour moi, la rencontre entre les deux, elle s'est pas faite, quoi. C'est Cotine et Géraldine Nakache, non, ça.
Non, mais j'aime bien son personnage encore, tu sais, un peu de fille, un peu
oui, dedans. Bah, c'est Cotine, c'est un personnage qui est sympa, et. Mais non, franchement, c'est désespérant, quoi.
Voilà. Il faut dire arrêtez, quoi. Arrêtez
les producteurs français, si vous voulez faire. Si vous voulez chier sur le patrimoine culturel français, faites-le, mais. Arrêtez de le faire sur le patrimoine culturel de vos voisins. Quoi.
Surtout que le pire, hein, c'est que. Parce que la grosse question avec ces genres de BD-là, c'est soit on les fait en live, soit on les fait pas en live. Je pense qu'il vaut mieux pas les faire en live et faire
C'est évident.
Et donc il y avait Astérix au Domaine des Dieux, là, qui est sorti il y a quelques années. Il y en a un nouveau qui va sortir pas longtemps, qui avait très très bien marché, mais vraiment très bien marché.
C'était pas trop mal.
C'était pas trop mal, il y avait un peu une. Allez, un petit respect. C'est quand même.
C'était Alexandre Astier, c'est un mec qui aime beaucoup Astérix.
Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. On n'est peut-être pas Pixar, etc., mais je crois qu'il y a moyen de faire un truc peut-être plus sympa en animation ou quoi que.
Sans doute. Il y a eu des bonnes choses hein, en animation. La série Tintin était très bien, celle de l'autre année, je ne sais plus combien maintenant. Alors, en tout cas, je l'ai vue quand j'étais petit.
En cassette.
Ouais, ça passait sur France Télé, je crois. Le film de Spielberg était très bien. les Astérix.
Oui, mais ça, ça coûte 300 millions.
Celui de Chabat, ben voilà, c'est la référence. Oui. Et les autres adaptations, ben, y en a aucune qui a marqué mon esprit, quoi. Alors souvent, ça arrive souvent que l'esprit de la BD soit dans le film, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Mmh. Comme je disais tantôt, c'est pas pour ça que c'est réussi, quoi. Donc, non.
Cela dit, bon, c'est pas un film où il y a des choses mauvaises dedans, dans le sens où...
Non, mais c'est pas rien de méchant, rien de chier, mais ça fonctionne jamais, quoi. Ça fonctionne pas, c'est tout.
C'est ça.
Et Gaston, ça va être exactement la même chose, parce que les cases de Gaston, elles sont iconiques. Tout le monde voit des planches de Gaston. Et tu sais déjà que c'est un rythme particulier, le mec, il a une posture particulière. Je pense que tout le monde a imaginé une façon de comment il parle. Et ça peut pas fonctionner au cinéma. Le rythme est pas pareil, quoi. Ça fonctionnera jamais. Jamais.
Une
mouette
de synthèse.
Bah ouais, mais...
On a vu ça.
Ça va être nul. Ça va être nul. Et Spirou, c'était nul.
Constant, voilà. Quelque chose d'autre à rajouter avant de donner une note?
Non. On a fait le tour, là.
On fait le tour.
Je préfère parler des bons films.
Je préfère parler des bons films. Ok. Note.
Bah écoute, la semaine dernière, du coup, je me dis que j'étais un peu vache avec Black Panther en lui donnant une étoile, même s'il mérite une étoile. Ouf. Mais j'ai envie de donner une étoile à Spirou et Fantasio.
Même cotation
que
Black
Donc
Panther.
Donc je pense que... du coup, quand je me dis que... Quand je dis que je donne la... Enfin, quand je pense au fait que je donne peut-être la même note, ça me fait un peu du mal. Du coup, je vais mettre une étoile vide pour Spirou et Fantasio quand même.
Bah alors, c'est pas d'étoile, en fait.
C'est pas d'étoile, c'est une bulle. C'est une bulle.
C'est une bulle, normalement.
Voilà.
Oui, alors, moi
en fait, je vais quand même dire pourquoi je voulais quand même donner entre guillemets une étoile. Désolé que je te coupe.
Oui, vas-y,
Constant.
Vas-y.
C'est que le film, bah, ça se regarde. C'est nul. Il se passe pas grand-chose et ça fonctionne pas. Mais en sortant du, il y a quelques petits trucs qui fonctionnent, qui voilà. Donc voilà, ça aurait pu avoir une étoile, mais ce sera rien.
Ben non. Voilà. C'est là.
Mais moi aussi j'aurais eu envie de donner une étoile, mais vu que j'ai mis que deux étoiles à Stronger, alors qu'il y a vraiment un écart de,
pour ça que j'avais d'appréciation, pensé à
d'appréciation
c'est
entre, les deux.
Hein, entre les deux.
Ah oui, mais voilà. En fait, j'ai regardé les deux d'affilée. C'est pour ça que j'ai pleuré. Je pense, j'ai dit ah un film.
Donc je vais faire comme Thibaut et je vais donner une étoile vide parce que voilà. Je peux pas.
Ok.
Petite bulle.
Voilà. On ne donne pas d'étoiles simplement en fait. C'est parce qu'on peut pas. Il y a pas d'étoiles vides sur le site.
Ah non.
Non.
Sur notre site partenaire.
Notre site partenaire, c'est une news. Donc la prochaine news du jour, news justement. King Fury qui devient un long métrage. Alors tu dois un peu m'éclairer parce que je ne connais pas Kung Fury.
Ah oui, moi aussi.
Tu dois m'éclairer. Je ne connais même la Julie.
C'est un court métrage de 2015, un truc complètement barré avec David Hasselhoff qui chantait, qui faisait des petites apparitions. Enfin, c'est un truc qui avait quand même pas mal buzzé sur Internet donc il y a 3 ans. Et en fait, le réel va en faire un long métrage. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? J'en ai aucune idée.
C'est comme Machete, quoi. Donc,
si tu veux, ouais, c'est ça. C'est un peu le même genre.
Parodie.
Et donc, le réel va l'adapter en long métrage, quoi. Et David Hasselhoff sera de retour. Je sais pas s'il va encore chanter, mais j'imagine bien. Et en tout cas, il aura au moins un second rôle où il fera une apparition. Mais on a appris que les deux premiers noms du film seraient ceux de Michael Fassbender, qui aura le rôle principal, et Arnold Schwarzenegger. Le truc complètement improbable.
Le duo,
c'est ça, quoi.
Donc Fassbender, Schwarzy et David Hasselhoff dans un même film. Je suis très curieux de voir ça.
Je pense que Fassbender, c'est un excellent choix pour lui de faire un truc un peu complètement décalé.
Ouais.
Parce que ces derniers temps, il est quand même vachement décevant.
Il fait plus rien de bien depuis Assassin's Creed, depuis ses films avec Steve McQueen, quoi.
Mais voilà, donc c'est... Il est en train de cramer un peu son nom, je trouve, dans le monde du cinéma. Et donc, il a intérêt à un peu changer de truc.
C'était quoi son dernier bon film ? Je pense qu'on a déjà eu cette discussion.
Oui, mais... on parle souvent de lui. Mais il fait plein de films, il est partout.
Ouais, mais son dernier bon film, c'était quoi ?
Shame ? Non, il y a Days of Future Past qui est parti. Oui. Sorti après, non ?
Ah oui, Days of Future. Oui, c'est
où
vrai.
C'est un, tu vois, où c'est le lead.
Dans les X-Men,
quoi.
C'est pas mal, ouais.
Depuis quand est-ce qu'il a pas porté un
film ? Ah, Tolly Versus Slave aussi, c'était après.
Ah,
il était
ouais.
Bien dedans.
Ouais, mais c'est pas lui vraiment qui a fait le film.
Star
ouais. Mais il n'y a pas de film récent où il dit, oh putain. Il a fait le film de Derek en France, mais qui est passé inaperçu. Le gars qui a fait Blade Beyond the Pines, je sais plus comment ça s'appelle le film. Je sais plus. Les rives ou un truc comme ça. Entre deux.
Entre The Light and the Ocean.
Ça, c'était un très bon film d'ailleurs.
C'est vrai ?
Moi, j'ai beaucoup aimé.
C'était plutôt pas mal. Ouais.
J'ai pleuré.
C'est plutôt pas mal. Mais il est bon.
Il était bien aussi dans le Terrence Malick Song to Song. Bon, je sais que Constant n'aime pas Terrence Malick.
Non, j'ai un peu de mal, mais c'est pas.
Bah écoute, je n'ai pas vu.
J'avais adoré Tree of Life.
Ah, c'est bien.
Film contemplatif, moi j'adore ça, tu sais. Ouais. Sinon, donc... je vais sur YouTube, je tape View of Beautiful Mountains et c'est bon. Je serai content pendant deux heures, ça défile.
Oui, mais il n'y a pas de.
Il me regarde avec un regard.
Il n'y a pas d'acteur célèbre dedans.
Ah oui, il y a un petit Ryan Gosling dans le qui passe devant la montagne et qui fait.
Il n'y a pas, pas Emmanuel Lubezki à la photo. Okay.
Je sais, c'est trop. Tu aimes bien ça. Et l'autre news, ça concerne The Irishman, le fameux film, oui. le big Alors, one.
Avant de redire la news. La semaine dernière, il me semble qu'on a dit de manière totalement erronée que DiCaprio était dedans, mais il n'est pas du tout dedans. Je ne sais pas pourquoi on a dit ça.
Dans Irishman, on parlait.
Oui, on a dit ça, je ne sais pas.
Non, on parlait du film de Tarantino.
Oui.
Avec Tom Cruise.
Oui, non, mais on avait dit que il n'a plus rien fait depuis The Revenant, et je pense qu'on a dit qu'il était sans doute dans le Scorsese, mais il n'est pas du tout dedans. Et donc, ouais, The Irishman de Scorsese, qui est produit par Netflix, avec De Niro, avec Al Pacino et Harvey Keitel au casting... il va coûter plus cher que prévu. Il coûtait déjà 125 millions de dollars, ce qui est énorme pour un film comme ça. Netflix. Et il en coûtera Netflix, plus de 140 millions.
Ouais.
C'est hallucinant. Ça va être un film de mafia quand même. Hein. Donc, les mecs,
apparemment, ils veulent rajeunir les comédiens.
C'est exactement ça.
Et voilà.
C'est pour ça que ça coûte plus cher. En fait, ils rajeunissent De Niro dans pas mal de scènes. Il y a le Pacino aussi, sans
doute. Avec l'effet visuel, quoi.
Ouais. Et donc, les mecs, le lifting numérique, ça va y aller, quoi.
C'est du boulot, quoi.
La même chose que dans Benjamin Button, d'accord, ok.
Ou enfin, que dans Justice League. Voilà, on enlève la moustache.
On a vu ce que ça a donné.
Ça avait coûté 15 millions, cette opération, aussi, je tiens à vous dire.
C'était cher, ouais.
Putain, rase ta moustache, hein, fieu. Et donc c'est ça que tu disais, la post-prod va bientôt démarrer et donc ils vont s'amuser maintenant pendant des mois avec un coup de pinceau
Ouais, le tournage est quasiment fini donc ils vont démarrer, j'imagine que les mecs ont déjà commencé à bosser dessus hein, mais
C'est intéressant d'avoir une conversation avec les gens de Netflix un jour pour savoir qu'est-ce qui est plus intéressant, produire des gros trucs comme ça à 140 millions ou produire des séries en chaîne
mais on peut inviter des gens de Netflix
et attendre qu'il y ait un nouveau
Déjà pour trouver un contact chez Netflix c'est compliqué hein.
BEFR
d'ailleurs si quelqu'un en a un ça m'intéresse, j'en ai besoin pour mon boulot.
Ils sont sans doute à Paris.
Ils sont à Paris clairement.
Bah oui,
ils sont à Paris mais c'est très très compliqué de trouver des contacts chez Netflix. Voilà.
Comme toutes les grosses boîtes, quoi, tu vois. C'est...
Ouais.
Achète-nous, mais tu sais ne nous contacte pas.
Tu sais que les boîtes, par exemple, quand tu veux... je parlais d'un cas là, sur lequel je suis en ce moment. Quand un festival veut un film, par exemple, et que la boîte de prod te dit « Ah ben, on n'a plus les droits, c'est Netflix qui l'a racheté. » Et tu leur demandes « Oui, d'accord, est-ce que je peux avoir un contact ?» Ils te disent non. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Netflix interdit ce genre de truc. Donc, bonne chance pour avoir tes films. Voilà. Comme ça, vous savez.
Écoute. Pas mal.
Petite anecdote.
Parlant de contrat et de trucs comme ça, j'ai vu que. Attention, on parle dans la section People. J'ai vu que Tom Cruise avait mis dans ton contrat de divorce avec Katie Holmes qu'elle ne pouvait pas être en vue en public avec un autre homme pendant 5 ans.
Ouais. Je crois. Oui, c'est pareil.
Et Jamie Foxx a quitté une émission de télé. Ah, voilà, c'est ça.
Jamie Foxx a quitté une émission de télé parce qu'on lui a posé la question. Genre, tiens, comment ça va avec Katie Holmes? Il a dit il enlève son casque, il s'est cassé.
Je me casse.
Je me suis cassé. Il y a un contrat. Je ne peux pas parler de ça.
Donc écoute, voilà,
parlons d'autre chose parce que là ça fait mal à Tom Cruise. Là. C'est
ouais, moi, quand on me parle de la scientologie de Tom Cruise, ça me fait toujours un peu de mal. Surtout que pourquoi il n'y a que Tom Cruise qu'on fait chier avec ça? Pourquoi on ne fait jamais chier John Travolta et Will Smith?
Parce que John Travolta, on le voit moins là.
On peut commencer par les francs-maçons aussi, mais ça c'est local. On est aux États-Unis, voilà.
On s'éloigne un peu,
Émission. D'ailleurs, oui. D'ailleurs, très très belle bague, hein, Constant.
Je n'en ai pas.
Troisième film de la journée, c'est I, Tonya. Rien à voir avec le sujet de conversation.
Absolument rien à voir.
Quelle belle transition.
Patineuse artistique. C'est bien avec les Jeux Olympiques d'hiver là, qui débarquent. C'est fantastique. Dans le milieu sportif, dans les années 90, puisqu'on va parler de Nancy Kerrigan qui a été interprétée, enfin pardon, je suis en train de me tromper complètement, la championne Tonya, pardon, qui est interprétée par Margot Robbie dans ce film-ci, qui est, parce que Thibault l'a déjà dit 50 fois et il va le redire aujourd'hui, une belle révélation pour l'actrice.
C'est pas une révélation, Margot Robbie,
on s'en est fait une bonne actrice. Non, mais elle est vraiment la pièce maîtresse de sa jeune carrière.
Ah oui, là,
parce qu'elle est toute jeune, donc.
Oui. Oui, ça, je suis d'accord.
Et c'est la première fois qu'elle dirige seule un film, enfin qu'elle est à la tête d'affiche, non?
Ouais.
Elle a fait plusieurs fois des seconds rôles, etc.
Ouais, mais... ouais. Bah,
dans Focus.
Suicide avec... Squad, elle était quand même Harley Quinn.
Et dans Focus, oui, avec Will Smith, c'était disons 55 ans.
Focus. Quoi, mais... Ah oui. Oui.
Elle a fait une entrée.
C'était nul, ça.
Très remarqué dans le Loup Wall Street au cinéma.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est un de ses premiers rôles.
Avec une scène.
Son premier rôle.
Oui, mais là, c'était une petite. Oui. Oui, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des bonnes choses, mais ici, clairement, c'est son premier gros projet,
oui.
Qui est réalisé par Craig Gillespie. Et ce gars avait fait des choses assez, somme toute, moyennes, genre Fright Night avec Colin Farrell.
J'avais encore trouvé ça sympa.
Et The Final Towers avec Chris Pine,
oui.
Qu'on avait vu...
On l'a vu en
vision de presse.
C'est un film qui me dit quelque chose, mais j'ai du mal à...
Ouais, c'était un film sur une tempête avec un mec qui devait aller sauver d'autres gens en bateau.
C'est passé inaperçu, hein, je pense.
Une petite sortie assez limitée. Et donc ce gars, il vient de frapper fort avec I, Tonya, parce qu'il est là où on ne l'attend absolument pas. Il réalise un biopic. Et en fait, la mise en scène, la structure du film, etc., c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Parce que le problème de biopic, en général, c'est que, bon, quand c'est des grands personnages historiques, c'est que tu racontes toute sa vie. Et il n'y a rien de plus chiant, et c'est la meilleure façon pour rater son film. C'est ce qui est arrivé à The Iron Lady et plein de trucs. Et qu'ils ont su éviter sur certains grands biopics, style Lincoln. Bah oui. Là, ouais, ici, non, je trouve que Les Heures Sombres est assez bien dans ce sens-là. Oui. Il se concentre chaque fois sur une période de la vie ou un événement précis. Et ici, à Tonya, bon, forcément, ça ne peut parler que de ça dans la vie de Tonya Harding. Et c'est plutôt bien réussi parce qu'en plus, ils utilisent. Enfin, ils brisent le quatrième mur de temps en temps. Les comédiens, enfin, les personnages parlent directement au spectateur. Et c'est construit de manière. Plus ou moins linéaire, mais pas mal d'allers-retours avec des flashbacks et ce genre de choses. Et c'est interrompu aussi, enfin c'est coupé par des interviews de personnages qui sont interrogés, soit par le FBI ou par d'autres. Enfin voilà. Donc la construction du film est vraiment bien. Et en fait, qu'est-ce que ça raconte ? Parce que je suis en train de dire que le film est très bien, mais de quoi ça parle ? Ça parle de donc cette patineuse artistique Tonya Harding qui était très très bien, très bonne, mais qui a.
Commandité
une agression sur une rivale. Voilà.
Exactement.
En gros, c'est ça.
C'est forcément comme accusation.
Je crois qu'on peut le lire sans spoiler. Il y a des gens de son entourage qui sont évidemment impliqués. C'est ça qui rend les choses tout à fait intéressantes.
Juteuse.
Ben oui, parce que si elle avait rien à voir avec, ça serait pas intéressant et on n'en ferait pas un film. Donc, il y a des gens de son entourage qui sont liés à cette histoire. Et certains d'entre eux se justifient de manière absolument fantastique. C'est très savoureux à voir dès qu'on arrive dans la période interrogatoire et tout ça.
C'est quoi, c'est comédie ou c'est très dramatique à
ce moment-là? Non, c'est dramatique, d'accord. Mais il y a des... Enfin, dramatique, c'est pas l'art moyen, etc.
Comédie dramatique.
Mais c'est une comédie dramatique. Mais il y a des moments assez drôles aussi. Ouais. Mais drôles, pas parce que c'est... on crée pas le rire parce qu'il y a pas, c'est pas des blagues, c'est pas ce genre de truc, tu sais, mais la situation parfois tellement absurde.
Oui, c'est ça, fait, c'est le personnage en fait, lui ne sait pas qu'il est drôle, mais
c'est ça,
voilà.
Notamment le personnage du garde du corps, enfin du garde du corps entre guillemets de Tonya Harding qui est fantastique. J'ai pas retenu le nom du comédien, par contre, mais vraiment très bien.
Mais c'est aussi un film sur, en fait, on n'en parle pas beaucoup dans ce film, finalement, mais la violence conjugale aussi, parce que...
Complètement.
Voilà, il y a aussi cette tension entre donc Tonya et son mari. Mmh. Et donc aussi, comme Thibault le disait, la mise en scène veut que, des fois, c'est expliqué du point de vue de Tonya et des fois du point de vue de son mari. Et donc, il y a des fois des opinions qui se rencontrent et qui divergent, en fait.
Mm-hmm.
Donc, c'est assez, assez intéressant à voir ça.
Ouais. Le personnage de la mère de Tonya est fantastique, qui est interprété donc par Alison Janney et qui remporte les prix à l'appel pour l'instant. Elle est absolument géniale. Et un autre point que j'ai bien aimé dans le film, c'est la photo de Nicolas Karakatsanis, qui est un chef opérateur flamand. C'est le chef opérateur de Michael Roskam.
D'accord.
Qui a donc fait tous les films de Michael Roskam, Le Fidèle, Runescope, etc. Mm-hmm. Qui a fait The Drop. Il a fait Triple Nine aussi, du réalisateur australien. Évidemment, Black, son nom m'échappe. Le réalisateur de La Route.
De la, The Road.
Ouais.
Aucune idée.
Ça y est, je.
Voilà,
dans 10 minutes, le nom va me revenir, évidemment.
On skip l'info.
Mais voilà, soit. Nicolas Karakatsanis, qui est aussi, grâce au film de Roskam et autres, commence à avoir une petite carrière qui décolle bien. Il se fait remarquer à l'international, donc c'est plutôt cool.
Et Margot Robbie, pour revenir là-dessus un petit mot, dans sa performance, qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
C'est une bonne question.
En quoi est-ce que c'est un bon choix pour ce rôle-là et qu'est-ce qu'elle apporte?
Mais ce qui fait que ça fonctionne, déjà elle est très bien, mais en fait on l'attendait pas dans ce genre de rôle parce que Tonya, elle ressemble absolument pas à son personnage. Si elle est très jolie, et la Tonya était quand même relativement jolie, même si elle s'en l'édite de temps en temps au début. Mais non, elle a un jeu assez complet et diversifié en fait. Et elle va vraiment dans des directions qu'on n'imaginait pas forcément quand on pense à Margot Robbie, qui est souvent considérée comme la touche charme et ce genre de trucs, comme beaucoup de belles filles malheureusement. Et non, là, elle a vraiment beaucoup de choses à jouer, et, très diversifiées, et elle livre vraiment une grande prestation. Donc voilà.
Oui, elle n'a pas eu peur de se salir finalement et de casser un peu l'image de la belle fille comme on a pu le voir on a pu la voir dans le Loup de Wall Street par exemple.
Ouais, tout à fait. Voilà. Mais elle avait déjà commencé ce travail là avec Suicide Squad en faisant un rôle vachement plus décalé.
Mais par contre, il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est que je sais que c'est pas Margot Robbie a évidemment pris des cours de patinage artistique, mais des fois on voit clairement que sa tête a été collée sur le corps de quelqu'un d'autre.
Ouais.
Et bon, moi dès qu'on voit que ce n'est pas authentique, ça enlève un peu de charme au film, et voilà. Après, c'est un détail, mais il fallait quand même que je le dise.
Bah oui, ok. T'as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça sur le film ou
dans non, l'ensemble, non, tout a été dit. Non, Thibaut a vraiment raison sur le fait de la mise en scène, et je pense que c'est ça qui porte le rythme du film, de justement cette cassure du quatrième mur, et que les acteurs s'adressent à nous comme ça, donc voilà.
Ouais. Très bien. La note
3
pour Aitonia, tu es plus ou moins du même avis ou
Oui, ça sera 3 aussi.
Ça sera 3 aussi. Tu dis ça parce que tu veux pas.
Non, et en fait, mais il y a pas d'ennemis, mais s'il y avait des ennemis, j'aurais mis 3,5. Mais voilà.
Voilà. Non, on fait pas les ennemis.
On fait pas les ennemis, on est catégorique.
Ouais.
Alors, dernière news avant de passer au dernier film. Ça concerne justement un film qui n'était pas très bon, Thibaut, hein, vu qu'une étoile sur 5.
Qui était décevant.
Décevant à crever, dit vraiment un film. C'est presque raciste de dire ça, hein, tu sais. Il y a tellement de autour de film, tellement de fierté. Oh là là,
je rigole. Comme tu y vas.
Black Panther qui cartonne, c'est le deuxième plus grand succès Marvel, en tout cas en week-end d'ouverture.
Ouais.
Il a pratiquement frôlé la barre des 200 millions de dollars pour un week-end. Voilà quoi. Même les pronostics, ils disaient quand même 170 millions. C'est quand même
déjà bien.
Déjà c'est gigantesque.
Oui, mais pour un film de ce genre, c'est déjà très bien.
Oui, voilà, surtout que c'est un spin-off, c'est pas un Avengers ou un truc comme ça, c'est vraiment
Marvel. Si, c'est un Avengers.
Oui, c'est un Avengers, mais il a surtout été encore introduit dans Captain America.
Techniquement, il n'est pas encore introduit comme étant un Avengers.
Wow. On va se calmer là.
Par exemple, Ant-Man, c'est aussi un film comme ça. Sauf que Black Panther a eu cette espèce
Ce sont des Avengers tous, même si je te dis Black Panther n'est techniquement pas encore introduit comme étant un membre des Avengers, mais c'en est un. Bah oui, 192 millions comme box-office de premier week-end, c'est énorme. Il aura un peu plus parce qu'aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis, c'est le President's Day. Et donc,
c'est le jour de Trump, s'il te plaît.
C'est le jour de Trump, si tu veux. C'est la journée de Donald. Donald et donc, Day. Il pourrait atteindre quasiment les 220 millions.
Wow.
Et le précédent record d'un President's Day, d'un week-end étendu à cause du President's Day, le précédent record était détenu par Deadpool, qui avait eu 152 millions, ce qui est quand même pas mal. Mais là, le film va clairement l'exploser, quoi. Hein, le record largement battu.
Il l'a déjà explosé, de toute façon. Mais bon, quand on regarde un truc comme ça, on se dit qu'en fait, il y a la marge entre un film Marvel et un Star Wars et pratiquement commence à se refermer petit à petit. Hein.
Ah bah oui.
Parce que c'était quoi, 220, hein, Star Wars, pour un week-end, quelque chose comme ça. Donc, on est en train de voir que Marvel continue de grandir et continue de prendre de la place.
Bah ici, il y a le fait
diversification, c'est quoi. Un autre
public, c'est un film avec quasiment que des Noirs dedans, à part Andy Serkis et Martin Freeman. Donc, les Noirs se découvrent un film qui les représente.
Oui.
Et donc, ça crée quelque chose d'un peu neuf. Bon, après, le film est ce qu'il est, quoi. C'est ce qui fait qu'il est décevant. Mais, Mais niveau message, etc., et symbolique, il est quand même important. Ça, on ne peut pas lui retirer. Et c'est pour ça que ça cartonne.
Et toi, Constant, tu avais pensé quoi du film ?
Non, moi, j'avais bien aimé, en fait. Et, justement, parce qu'il y avait tout ce renouveau dans l'univers.
Il n'y a pas tant de renouveau que ça.
Ouais, bah, si, parce que, je veux dire, ce sont que des personnages, des nouveaux personnages qu'on découvre. Et je sais pas, le film dure très longtemps, mais c'est passé hyper vite, donc voilà. Mais après, je pense que ça fait pas assez de lien avec tous les anciens films, et c'est peut-être pour ça que j'ai aimé. Mmh. Voilà.
Sans doute.
Voilà, on va passer du coup au dernier film de cet épisode de Cinécast, puisqu'on va parler d'un film français. Changeons un petit peu tout ça. Ouais, Spirou est français aussi, mais bon, on s'entend.
Un bon film français.
Un bon film français.
Il est réalisé par Xavier Legrand. C'est un premier film. Et le film qui était présenté à Venise, où il a fait sa première mondiale, qui s'appelle Jusqu'à la garde. Et je pense que Constant l'a beaucoup aimé.
Oui, c'est un de mes films coup de cœur de ce début d'année.
le cachet Constant.
À mon avis, les larmes ont largement coulé.
Oui, en fait,
Constant,
en fait,
tu peux y aller. Un monologue de 10 minutes.
Vous savez que donc, je suis quelqu'un de très sensible quand je vois un film, mais ce film m'a tellement bouleversé que...
Comment tu dis vous savez que...
Parce que voilà, évident. Je suis connu pour ça.
Vas-y, Père Castor, raconte-moi l'histoire.
Dans la salle de vision de presse, quoi ?
Je disais, Père Castor, raconte-nous une histoire.
Oui, non. Et en fait, ce film m'a bouleversé à un point. J'étais en sanglots. J'avais vraiment envie de... Mais je sais pas. Il y a peu de films qui m'ont mis dans un état comme ça. Et celui-là, waouh. Donc voilà. Après, je dis pas...
Pourquoi ça t'a mis dans un état comme
mais
ça
en fait,
qu'est-ce qui t'a touché?
Oui, en fait, disons que c'est une seule partie du film.
Résume peut-être un petit peu ce qui se passe avant.
Oui, en fait,
Luc Besson divorce, c'est ça ?
Non, tout simplement. En fait, c'est assez simple comme histoire. Un couple divorce et donc ils se battent autour de la garde de leur enfant, en fait.
Juridiquement d'abord.
Juridiquement. Et après aussi, ça parle aussi de violence conjugale. Et c'est aussi raconté aussi du point de vue des enfants, ce qui est aussi un nouveau... un nouvel axe.
À la base, il a pas de droit de visite ni rien, mais finalement, il réussit à obtenir un week-end sur deux pour le fils, parce que la fille est déjà majeure. Donc elle veut pas le voir, donc il peut pas l'obliger à le voir, et donc il peut avoir son fils un week-end sur deux, mais le fils a quand même peur de son père, parce qu'effectivement, il sait que son père a déjà frappé sa mère, etc. Et donc voilà. En fait, ça démarre un peu comme Kramer contre Kramer, un film que j'aime beaucoup avec Dustin Hoffman et Meryl Streep qui divorcent. Et ça démarre par une excellente scène. Où il y a c'est une juge hein, du coup qui
explique les faits,
qui explique,
en fait,
ouais c'est ça, qui détaille tous les faits avec il y a les deux conjoints, enfin futurs conjoints et leurs avocats, et c'est une scène qui dure presque 10 minutes je pense, où la juge parle, elle résume tout et explique tout.
En fait, elle résume.
Et les avocats ont chacun aussi un.
C'est la lettre du gosse, en fait.
C'est ça.
Le gosse qui a écrit pourquoi il veut rester avec sa mère et parler avec son père. En fait.
D'accord.
Et ça parle énormément pendant cette scène, mais dès le début, t'es déjà. Waouh, ok, d'accord. Je sais pas ce que ça va donner la suite, mais ça va être assez fort. Quoi,
tu sais où on va aller, quoi. C'est ça.
Et finalement, donc, le père arrive à obtenir un week-end sur deux avec son fils. Et. Bah, il va essayer de reconstruire un peu une relation avec lui, mais rapidement, certains travers retombent, on va dire, reviennent. Il est assez imposant, il effraie son fils, et voilà, il va y avoir une escalade, une situation qui va dégénérer progressivement. Et ce qui est très fort, c'est la tension que Xavier Legrand arrive à insuffler au film, quoi.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
Ah bah, désolé.
C'est lui qui parlait à la base.
C'est vrai. Oui.
C'est vrai.
Il parlait du fait qu'il pleurait dans la salle et tout.
C'est vrai. Désolé.
Non, mais justement, vas-y, comme il disait très bien, le réalisateur pose une tension, mais constante, vraiment, qui monte crescendo jusqu'à la scène finale, qui est l'apothéose donc, du film, et qui est une scène, mais totalement bouleversante.
Ouais, c'est vrai que quand
intrigué, hein.
Face à cette scène, tu sais pas trop comment.
Mais
moi,
ce qui c'est que ça, j'avais peur, j'avais envie d'arrêter le film et je pleurais, et donc je sais pas, c'est vraiment des sensations très étranges, et finalement, on recherche tous des nouvelles sensations quand on regarde des films.
Du cinéma, oui.
Mais en fait, quand tu regardes cette scène en particulier, t'as l'impression d'être devant un peu comme certains films, style Fruitvale Station et des films de drame. et t'as l'impression d'être témoin d'un truc et t'es impuissant, tu vois. Et ben cette scène, c'est exactement ça. Je dis absolument rien sur ce qui se passe,
non.
Mais voilà, t'es face à un truc où t'es impuissant, tu peux pas réagir, et c'est au niveau des cadrages, du montage, tout est fait pour que tu ressentes quelque chose devant le film. Après, d'accord. Voilà, ça peut varier d'une personne à l'autre, évidemment, mais c'est très très fort.
Ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, ça monte vraiment crescendo, donc le film commence... Mm-hmm. naturellement, très simple, mise en scène simple, et finalement pour justement amener à ressentir tout ça dans la scène finale.
C'est très progressif, mais très très bien dosé.
Et du coup, le casting doit être
Le casting est fabuleux. Denis Ménochet, il est à Drucker, on savait déjà depuis longtemps
qu'il était Denis Ménochet, très bon. C'est une gueule, et je pense qu'il a exactement masse, la carrure pour...
Ce mec, c'est un rock, il a une... Il a déjà une carrure hyper impressionnante, c'est un buff, il est massif, quoi. Léa Drucker, elle est un peu plus frêle, un peu plus fragile, mais on voit qu'elle a de la personnalité, et forcément elle fait une mère fabuleuse. Mais là, la révélation, c'est le garçon, boss, c'est Thomas Gioria, son premier film. On le reverra, ça c'est sûr.
Il parle pas énormément, mais dans ses jeux de regard, tout passe en fait.
La grosse mode, ça va dans le cinéma d'avoir un acteur qui ne parle pas beaucoup, mais qui est très expressif.
Et surtout un enfant en plus.
Avoir un Daniel Day-Lewis.
C'est ça, moi, Ryan Gosling.
Qui dit pas grand chose. Ouais, mais il fait passer moins de choses quand même.
Ok. Un peu. Alors, la note du coup de ce film.
Vas-y.
Ouais. On sent non, 4, allez, là, je vais mettre 4, mais si je pouvais mettre un demi, je mettrais 4,5.
Okay, tu peux pas.
Mais voilà.
Moi, ce sera un 3, ouais.
Ah, seulement ? Mais
qu'est-ce qu'on fait alors ?
Mais enfin !
Mais écoute, ce sera un 3, c'est très bien, 3.
Oui, c'est
écoute, les infos que j'ai donné 4, c'était La Forme de l'eau et Three Billboards Outside Ebbing.
Tu ne donnes jamais 5, en fait.
Je ne pense pas que je donnerai 5 un jour, non ?
Phantom Thread, tu as donné 4.
Oui, c'est vrai, j'ai donné 4 à Phantom Thread aussi. Et un autre la semaine dernière, non ? Je ne sais plus maintenant.
Vous avez parlé ? Tu as donné 4 à 2 films.
Comme
il va aller.
Ah, mais
comme
il va aller,
j'aurais donné 5.
Ouais. Mais c'est vrai que j'ai donné déjà 4
comme
4,
ça, les gens qui écoutent le savent.
Ok, voilà. Bon, ben 3 alors.
Donc pour moi, jusqu'à 4, dans les c'est standards, très bien, mais je donne 3, c'est un très bon 3.
On est très sévère, on est des gros haters.
Je suis pas un hater.
Mais j'aime pas être trop dur avec les films, parce qu'il y a quand même plein de travail derrière.
On a compris, tu es émotif, ça va.
Bon, voilà.
Donc si on devait du coup comme à chaque fin d'émission parce que non c'est pas fini
je pensais tirer sa chaise et tout
juste faire un rapide recap sur les films qui sortent cette semaine au cinéma. On a déjà parlé de plusieurs d'entre eux, mais voilà, comme ça il y a un peu un cahier des charges. Winchester, un film fantastique horreur avec Helen Mirren qui sort cette semaine. Vous l'avez vu?
J'ai été au courant de la vision de presse deux heures après la vision de presse, donc ils n'ont pas envoyé.
Donc on ne sait pas. Mais c'est bizarre, enfin soit.
Oui.
Ça a l'air très bizarre. Akiambra.
Je l'ai regardé. C'est un film qui était à Cannes. Je vous le conseille, il est à un certain regard. Je ne vais pas trop en parler, bon, de toute façon on n'a plus le temps, de toute façon. Mais c'est un beau film italien. Voilà, regardez-le. Voilà.
C'est un beau
film italien. Je vais juste dire regardez-le, bon. Très bien.
Jusqu'à la garde, on vient d'en parler. 3 étoiles du coup, ou 4 étoiles. Aitonia, on vient d'en parler aussi. Criminal Squad, c'est Den of Thieves.
C'est Den of Thieves en Belgique, oui, je l'ai manqué.
Je l'ai manqué aussi.
Mais c'est un gros film de braquage avec Gérard Butler déjà, oui, donc...
Et Oshie Jackson. Bye Bye Germany, comédie dramatique allemande.
Film belge.
De Sam Grabarski.
Sam Grabarski, ouais.
Ok, vu, non.
Oui, mais tourné en allemand sans doute.
Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu des bons échos.
D'accord.
Stronger, bon, ça m'a parlé. Ni juge ni soumise, documentaire belge.
Oui, en fait, c'est par ceux qui ont fait Striptease, cette émission.
Striptease, ouais.
Ah ouais.
Et donc, c'est un long métrage sur le même principe.
Voilà, je ne l'ai pas vu, mais je vais m'empresser d'aller le voir.
Pareil, je vais aller le voir.
Les aventures de Spirou et Fantasia.
On le dit tout bas et on peut dire très fort. N'allez pas le voir.
Et le film qui est diffusé demain.
Si je vois dans une semaine ou deux qu'il est dans le box-office belge, là, dans les 5 premiers,
qu'est-ce que tu vas faire ?
Ça va très mal se passer.
Mais ça va mal se passer.
Je vais aller vous voir.
Ça va mal se passer.
Un par un.
Et puis de 317 to Paris.
Ou de 15. Ah, ben le film d'Eastwood.
La vision de presse est demain.
La vision de presse est mardi, il sort mercredi.
Et les échos
en France, ils n'ont même pas eu de projet presse. Zéro.
Oui.
Donc on a de la chance.
Oui.
Enfin, quand on fait une projet presse le mardi à 15h et que le film sort le lendemain...
À 15h17, la projet presse, ou pas ? Ils auraient osé.
Lol.
Ils auraient osé. Ah bah moi, si j'étais responsable PR du film, j'aurais fait ça. Honnêtement. Ah ouais, attends.
Ça, c'est un coup marketing.
À 15h17. À 15h17. Waouh.
Bon,
les échos sont mauvais, mais bon, voilà.
Sur ces belles paroles, on va clôturer cette émission. N'oubliez pas de nous suivre sur facebook.com/cinecastbe, sur Twitter @cinecastbe, et surtout de vous abonner sur iTunes et SoundCloud en tapant Cinecast. Comme ça, vous n'allez pas manquer les prochains épisodes. En espérant, du coup, te revoir, Constant.
Avec plaisir, quand vous voulez.
De toute façon, on se revoit bientôt au cinéma, comme ça je peux te donner des mouchoirs. Et,
oui. Et on peut... Non, c'est Thibaut là qui fait ça le plus souvent.
C'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'essayer de repérer quand il pleure.
C'est vrai ? Ouais, ouais. Tu regardes comme ça, là, tu te penches.
Il y a des moments où je sens qu'il est susceptible de pleurer, alors parfois je tourne la tête.
Et des fois je pleure et il me casse en plein dans mon émotion, arrête, mais c'est pas grave.
Bon, sur ces belles paroles, merci beaucoup.
Merci à tous, merci Guillaume.
Ciao, ciao.
Des bisous.